Alors on va aborder le deuxième sujet de ce séminaire sur la question d'Israël et l'Église. Quand on me demande de traiter ce sujet, je commence tout de suite par évoquer mes lointains souvenirs d'études de mathématiques. J'ai jamais été très bon en mathématiques, mais au moins une chose dont je me souviens, c'est que notre professeur nous disait que si on pose mal le problème, on aura une mauvaise solution. Or, poser la question « l'Israël et l'Église », c'est mal poser le problème. Et par conséquent, c'est risquer d'avoir une mauvaise solution. Et nous allons voir justement ce que Paul nous dit à ce sujet dans son épître aux Éphésiens, chapitre 3, où il nous dit ceci. « À cause de cela, moi, Paul, le prisonnier de Jésus-Christ, pour vous les païens, si du moins vous avez entendu parler de la grâce de Dieu qui m'a été accordée pour que je vous en fasse part. C'est par révélation que j'ai eu connaissance du mystère, comme je viens de l'écrire en quelques mots. En les lisant, vous pouvez comprendre l'intelligence que j'ai du mystère du Messie. Ce mystère n'a pas été porté à la connaissance des fils des hommes dans les autres générations, comme elle a été révélée maintenant par l'Esprit à ses saints apôtres et prophètes. Les païens ont un même héritage, forment un même corps, participent à la même promesse en Jésus-Christ par l'Évangile, dont je suis devenu serviteur, selon le don de la grâce de Dieu qui m'a été accordé par l'efficacité de sa puissance. À moi, le moindre de tous les saints, cette grâce a été accordée d'annoncer aux païens comme une bonne nouvelle les richesses insondables du Messie et de mettre en lumière la dispensation du mystère caché de toute éternité en Dieu, le Créateur de toutes choses. Ainsi, désormais, les principautés et les pouvoirs dans les lieux célestes connaissent par l'Église la sagesse de Dieu dans sa grande diversité, selon le dessein éternel qu'il a réalisé par Jésus-Christ notre Seigneur, en qui nous avons par la foi en lui la liberté de nous approcher de Dieu avec confiance. Aussi, je vous demande de ne pas perdre courage à cause de mes tribulations pour vous. Elles sont votre gloire. » Ce texte est très important parce qu'il nous place ici devant une réalité qu'il faut absolument appréhender si nous voulons vraiment comprendre ce qu'est le plan de Dieu. C'est la notion du mystère. L'Église, nous est-il dit ici, est un mystère. Mais ce n'est pas seulement l'Église qui est un mystère. Et dans l'Épître aux Romains, au chapitre 11, Paul déclare ceci, parlant d'Israël, « Je ne veux pas, frère, que vous ignoriez ce mystère. » Par conséquent, l'Église est un mystère et Israël est un mystère. Et nous allons voir que ces deux mystères sont indissolublement liés. C'est un théologien hollandais, Thompson, qui écrivait ceci. Ce n'est que lorsque l'Église se penche sur le mystère d'Israël qu'elle peut comprendre son propre mystère. Et ça, c'est quelque chose de très important. Qu'est-ce que c'est qu'un mystère? Alors ça, il faut reprendre un petit peu la tradition juive. Dans la tradition juive, il y a quatre manières de lire l'Écriture. Quatre manières qui forment un sigle, qui nous donne le mot « pardès » en hébreu, ce qui signifie « le paradis ». Ça veut dire que quand on fait ces quatre lectures-là, d'une certaine manière, c'est comme si on entrait dans le paradis. Donc, « pardès », première lettre, « P », qui nous donne le mot « pshat » en hébreu. « Pshat », ça veut dire le sens littéral du texte. Et pour les juifs, pour les rabbins, le « pshat », le sens littéral du texte, il est essentiel. Il est toujours premier. On ne peut jamais s'en affranchir. Et ça, c'est très important, parce que dans la tradition chrétienne, on a considéré, avec les pères d'Église, que la seule lecture valable de ce que l'on appelle l'Ancien Testament et par conséquent des prophéties, c'est la lecture allégorique. Et quand on a par conséquent un texte, Oui, les questions d'Israël. Il ne faut pas comprendre Israël, il faut comprendre l'Église. Vous connaissez tous, évidemment, la fameuse prophétie d'Ézéchiel 37 sur la résurrection des ossements desséchés. Et je suis sûr que vous avez tous entendu de magnifiques prédications sur ce texte où il était question de l'Église qui est comme des ossements desséchés, qui sont dispersés, qui sont divisés, qui sont... Mais l'Esprit de Dieu va souffler, l'Esprit de Dieu souffle dans ces temps qui sont les nôtres, et les ossements se rapprochent, les églises se rapprochent les unes des autres, et puis l'Esprit du Seigneur vient sur elles, et une grande armée va se lever, un grand réveil va venir, etc. Bon. Je ne dis pas qu'une lecture de ce type-là soit illégitime. Et nous verrons que, précisément, dans le judaïsme, on a aussi ce type de lecture. Seulement, il ne faut pas oublier que, dans son sens littéral, cette prophétie, elle s'applique à Israël. Et c'est de la résurrection d'Israël qu'il s'agit, et non pas de la résurrection de l'Église. C'est dit dans toutes lettres, à la fin du texte, quand le Seigneur dit à Ézéchiel, le prophète, « Fils de l'homme, ses os, c'est toute la maison d'Israël. » Ce n'est pas l'Église, c'est toute la maison d'Israël. Alors, on a le droit de prendre pour soi des textes qui sont pour Israël. Je ne sais pas, moi, par exemple, « Ne crains pas, je suis avec toi, je t'appelle par ton nom, tu es à moi. » Bon, beaucoup de chrétiens prennent ce texte-là pour eux. Et ils ont raison de le faire. Ça peut être une manière dont Dieu nous parle. Mais ça aussi, au départ, c'est quand même d'abord pour Israël que ça a été donné. Et il faut toujours rendre à César ce qui est à César. Et on a le droit d'utiliser ces textes-là pour soi à une seule condition, c'est d'abord d'avoir précisé que dans le sens premier, ce texte s'applique à Israël. Quand j'étais étudiant en Angleterre, il y a bien longtemps, on utilisait encore la vieille version du roi Jacques. Et avec les notes de l'époque, c'est intéressant. Et par exemple, je me souviens d'avoir été particulièrement choqué, moi qui étais déjà très branché sur Israël à cette époque-là, en lisant, je crois que c'était Ésaïe 50, 59 et 60, je crois. Chapitre 59 d'Ésaïe est un texte de reproche. Où Israël, où Dieu, le prophète dénonce les péchés d'Israël. Et il y avait un sous-titre qui avait été placé par les traducteurs de l'époque du roi Jacques, qui disait ceci, « Les crimes des Juifs ». C'était le sous-titre. Et puis on avait le chapitre 60, « Lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive, la gloire de l'Éternel se lève sur toi », qui est au contraire la gloire à venir de Jérusalem. Et voilà le sous-titre qu'il y avait, « La gloire de l'Église ». Donc, c'est complètement incohérent. Parce que finalement, le chapitre 59 et le chapitre 60 s'adressent aux mêmes personnes. Où c'est l'Église ? Et à ce moment-là, les condamnations, ça vaut aussi pour l'Église. Où c'est Israël ? Et à ce moment-là, eh bien, les bénédictions, ça vaut aussi pour Israël. Mais voyez-vous, dans l'histoire de l'Église, on a fait cette lecture, comment dirais-je, complètement aberrante, où toutes les malédictions, c'est pour Israël, et toutes les bénédictions, c'est pour l'Église. Alors, le pshat, le sens littéral, c'est toujours le sens dont on ne peut pas se défaire. Il faut toujours revenir au sens littéral. Bon. Et ensuite... on a la deuxième lettre du mot « pardes », c'est la lettre qui correspond à « R » dans l'alphabet latin. Ça veut dire en hébreu « remez ». Remez, c'est ce qu'on appelle des allusions. Une allusion, ça veut dire par exemple, comme le dira Jésus, « il ne disparaîtra pas de la Torah un seul iota et un seul trait de lettre ». Je vais vous citer un exemple. Comme ça m'évitera d'y revenir demain, ce sera déjà fait aujourd'hui. ça nous fera gagner un petit peu de temps. Dans le livre du prophète Daniel, à trois reprises, il est question de l'abomination et de la désolation. Ce qui se dit en hébreu « shikutz meshomem ». Trois reprises dans le livre du prophète Daniel, au chapitre 9, au chapitre 11 et au chapitre 12. Or, ce qui est très intéressant, c'est que dans ces trois exemples, eh bien, il y a chaque fois une faute d'orthographe, et une faute d'orthographe qui est différente à chaque fois. Or, on peut se poser la question, le Saint-Esprit fait-il des fautes d'orthographe ? Non, forcément. Et les rabbins ont dit ceci, quand il y a ce qui paraît être une faute d'orthographe dans la Bible, et ce n'est pas le seul endroit, il y en a bien d'autres encore, c'est parce qu'il y a un mystère messianique qui est caché. Et il faut de la sagacité, il faut de la sagesse pour pouvoir le percevoir. Or, c'est très intéressant de noter que cette expression « abomination et désolation », vous la retrouvez dans les discours apocalyptiques de Jésus, dans Matthieu 24 et dans Marc 13. Et là, vous avez cette expression. Quand vous le lisez en français, évidemment, ça perd un peu de son impact. Vous avez cette expression. Quand vous verrez l'abomination et la désolation dont a parlé le prophète Daniel établi au lieu saint, et là, il y a une incise. Ça veut dire une expression qui est mise entre parenthèses ou entre tirées dans la plupart de nos versions. Et qui dit ceci, que le lecteur comprenne, ou que celui qui lit comprenne. Alors, ça, c'est pas Jésus qui a prononcé cette parole, c'est l'auteur de l'Évangile qui a ajouté ça, comme une parenthèse, justement. C'est pour ça qu'on a raison de mettre entre parenthèses. Ça veut dire qu'il veut attirer notre attention sur ce qui précède, abomination et désolation. Mais si vous lisez une version française, vous ne verrez rien de spécial. Vous aurez beau scruter l'expression « abomination et désolation », vous ne verrez rien de spécial. Mais si vous la lisez en grec, vous verrez que dans le grec, il y a aussi une faute d'orthographe. Ça veut dire que les auteurs de l'Évangile savaient parfaitement que dans leur source, dans Daniel, à cet endroit-là, quand il est question de l'abomination et de la désolation, il y avait une faute d'orthographe. Et cette faute d'orthographe, ils l'ont reproduite fidèlement dans le texte grec, en attirant l'attention du lecteur pour lui dire « Attention, cette faute d'orthographe qui est là, elle n'est pas accidentelle, elle est intentionnelle parce qu'il y a un mystère messianique caché dans cette expression-là. » Et par conséquent, si vous pouvez comprendre, comprenez ce que ça veut dire. Et quand nous arrivons dans l'évangile de Luc, nous avons l'explication. Parce qu'au même endroit où il est question de l'abomination et de la désolation, vous avez cette expression « mais quand vous verrez », non pas l'abomination et la désolation, « mais quand vous verrez Jérusalem investie par les camps militaires, alors sachez que sa désolation est proche ». Et l'abomination de la désolation, eh bien, pour Luc, c'est la ruine de Jérusalem, la destruction de Jérusalem en 70 par les Romains. Donc là, nous avons l'explication du mystère, ce qu'on appelle en hébreu « remez ». Donc ça, c'est le deuxième niveau de lecture. Nous avons ensuite la lettre D, donc Pardès, qui est la première lettre du mot « drache ». Ou Midrash en hébreu. Alors ça, c'est toute une technique de lecture, ça il nous faudrait longtemps pour en parler, qui va de l'allégorie, comme on l'a vu tout à l'heure, dans le judaïsme aussi, il y a l'allégorie. Mais sans, encore une fois, sans faire l'économie du sens littéral. Et puis, il y a aussi alors toutes sortes d'explications. Des explications sur... par exemple, des obscurités du texte. Je vous cite un exemple. Dans les songes de Joseph, vous savez, Joseph, le fils de Jacob, a deux rêves, et notamment le deuxième, où il voit le soleil, la lune et 11 étoiles qui se prosternent devant lui. Et son père va donner l'explication du songe en disant « Faudra-t-il que moi, le soleil, ta mère, la lune, et tes frères, tes 11 frères, les 11 étoiles, venions nous prosterner devant toi ?» Bon, ça c'est l'explication du rêve, mais il y a un problème. C'est que le père, ça va, les frères, ça va, mais la mère de Joseph, c'est Rachel. Et au moment où a lieu le rêve de Joseph, Rachel, elle est morte. Elle est morte depuis longtemps. Et par conséquent, comment la mère de Joseph pourra-t-elle venir se prosterner devant lui? Ça, c'est une des obscurités du texte. Et c'est là que le Midrash nous apporte une réponse. Il nous dit ceci. En fait, après la mort de Rachel, Bila, sa servante, a recueilli ses enfants, ses deux enfants, donc Joseph et Benjamin, et les a élevés comme ses fils, comme si c'était ses propres fils. Et finalement, Joseph n'a pas beaucoup connu sa mère, et pour lui, sa véritable mère, c'était Bila. Et quand il est dit « Faudra-t-il que ton père, ta mère et tes frères venions nous prosterner devant toi ?» La mère dont il est question ici, ça n'est pas Rachel, c'est Bila. Vous voyez, ça, c'est ce qu'on appelle le Midrash. Alors, ça, bon, ça, c'est ensuite, ça peut être extrêmement complexe, mais ça, je ne vais pas rentrer dans ce genre de choses. Et puis, quatrième niveau de lecture, le plus élevé, le Sod, Pardès, le Sod, ça veut dire le mystère. Et le Sod, alors qu'est-ce que c'est qu'un mystère? Un mystère, c'est une vérité qui se trouve dans la Bible, dans la parole de Dieu, mais que l'homme le plus intelligent, avec toute sa sagesse, sera incapable de discerner. Et pour la discerner, il faut une révélation de l'Esprit de Dieu. Il faut une sagesse surnaturelle. Non pas la sagesse des Grecs, des philosophes, des savants, des scientifiques, etc., mais cette sagesse dont nous parle l'apôtre Paul dans la première épître aux Corinthiens, quand il nous dit que la croix, c'est une folie pour ceux qui périssent, et pourtant, dit-il, c'est une sagesse que nous prêchons parmi ceux qui sont parfaits. Une sagesse qu'aucun des sages de ce siècle n'a connue, sinon il n'aurait pas crucifié le Seigneur de gloire, mais ce sont des choses que l'œil n'a pas vues, que l'oreille n'a pas entendues, qui ne sont pas montées au cœur de l'homme. Dieu nous les a révélées par l'Esprit, car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Donc, c'est cette sagesse-là qui nous permet de comprendre le mystère. Et vous pourrez lire les textes bibliques 50 fois, 100 fois, 200 fois, s'il n'y a pas cette révélation-là, vous n'y comprendrez rien. Vous, en tout cas, vous ne verrez pas le mystère. Mais quand Dieu a révélé le mystère, alors c'est quelque chose qui devient évident, qui devient clair. Et quand il nous est dit que l'Église est un mystère, eh bien, c'est de cet ordre-là que l'apôtre Paul nous parle. Ça veut dire, comme il le dit ici dans le texte des Éphésiens, c'était quelque chose que Dieu avait caché dans l'Écriture depuis les origines. Et en effet, quand vous lisez les Écritures, ce que les chrétiens appellent improprement l'Ancien Testament, vous ne trouvez aucune allusion directe à l'Église. Ça veut dire que l'Église, c'est quelque chose qui apparaît, finalement, qui apparaît dans le livre des Actes, je ne dis même pas dans les Évangiles. Il est très peu question de l'Église dans les Évangiles, mais c'est à partir du livre des Actes et dans la suite qu'il est question de l'Église. Et on a l'impression que l'Église, c'est quelque chose qui surgit comme ça du néant. En fait, il n'en est rien. Et l'Église, c'est quelque chose qui existait depuis toujours, nous dit l'apôtre Paul, dans le plan de Dieu. Et c'est quelque chose qui va être dévoilé, c'est un mystère qui va être dévoilé à partir du moment de la venue du Messie, de sa mort et de sa résurrection. À partir de ce moment-là, ce mystère va être révélé, va être dévoilé, pas à n'importe qui, mais aux apôtres, nous dit Paul, et prophètes du Messie. Ceux-là seulement vont avoir cette révélation, et celui qui va en avoir la révélation la plus profonde, comme il le dit lui-même avec beaucoup de modestie, n'est autre que l'apôtre Paul. Voilà donc ici l'Église un mystère. Israël aussi un mystère. Pourquoi un mystère ? Quel est le mystère d'Israël ? Qu'Israël est le peuple de Dieu ? Qu'Israël est amené à être la lumière des nations, à être en bénédiction à toutes les nations, à être le peuple de la révélation de Dieu ? Pas du tout. Ça, c'est pas mystérieux du tout. C'est écrit en toutes lettres dans les Écritures. Par contre, ce qui est moins évident et qui va poser problème aux Romains, par exemple, mais pas seulement à eux, et finalement à tous les chrétiens de tous les temps, c'est comment se fait-il que ce peuple d'Israël, qui a tant reçu de Dieu, qui a été choisi par Dieu et qui reste le peuple choisi de Dieu, comment se fait-il qu'au moment où le Messie est venu, et au moment où, par conséquent, les païens, les non-juifs, ont reçu le Messie, comment se fait-il qu'Israël ne l'ait pas fait ? Que Israël ne l'ait pas fait. Ça veut dire que le mystère d'Israël, c'est essentiellement le mystère de l'endurcissement d'Israël. Pourquoi Israël est-il dans cette situation-là d'endurcissement vis-à-vis de son Messie ? Ça, c'est le mystère. Ça, c'est le mystère d'Israël. Et voilà ici deux mystères, le mystère d'Israël et le mystère de l'Église, et deux mystères qui sont indissolubles, indissociables l'un de l'autre. Tout d'abord, voyons le mystère de l'Église. Et comme je disais tout à l'heure, quand on dit Israël et l'Église, on pose mal le problème. Parce que, quand nous disons Israël, nous entendons essentiellement le peuple juif. Et quand nous disons l'Église, nous entendons essentiellement les païens. Parce que depuis, disons, 18 siècles, même un peu plus, disons 16 siècles, l'Église est pratiquement composée uniquement de païens. Et les rares juifs qui se trouvent en son sein sont priés de se paganiser et de taire leur appartenance au peuple d'Israël. Et c'est pourquoi on considère qu'Israël, c'est les juifs et l'Église, c'est les païens. Faux, totalement faux. Nous avons lu tout à l'heure ici la définition que Paul nous donne de ce mystère de l'Église. Il dit, qu'est-ce que c'est que l'Église, en substance ? C'est le rassemblement dans un seul corps du reste d'Israël qui a cru. Ah, ça c'est très important. Parce que Paul nous montre, dans le chapitre 9 de l'Épître aux Romains, qu'il y a un reste qui a cru, un reste fidèle d'Israël, qui est dans l'élection de Dieu depuis toujours. Et les Romains ont posé justement à Paul la question fondamentale, à savoir celle que j'ai posée tout à l'heure. Comment se fait-il que le peuple d'Israël n'ait pas cru en Jésus ? Et Paul commence par nuancer cette question. Il dit attention, attention, attention. Quand vous dites « le peuple d'Israël est tombé dans l'endurcissement », c'est pas vrai. Dites, une partie d'Israël est tombée dans l'endurcissement. Vous allez me dire, cette partie, c'est la plus importante partie du peuple d'Israël. D'accord. On est bien d'accord sur ce point. Mais vous ne pouvez pas dire, vous n'avez pas le droit de dire que tout Israël est tombé dans l'endurcissement. Parce que il y a toujours eu un reste qui a cru en Jésus. Et il faut quand même pas oublier que les apôtres étaient juifs. Nous aurons l'occasion de le voir, les premiers croyants en Jésus étaient juifs. Et Paul déclare aux Romains, « Quand bien même moi, Paul, je serai le seul à croire en Jésus, ça suffirait pour dire que tout le peuple juif n'est pas tombé dans l'endurcissement, parce qu'il ne faut pas oublier que moi, Paul, je suis juif. » Donc il y a un reste. Il y a un reste qui est le reste fidèle d'Israël, comme il y a toujours eu un reste dans les pires époques d'apostasie d'Israël. Parce que finalement, ce qui se passe aujourd'hui, dit Paul, c'est pas nouveau. Quand vous regardez l'histoire d'Israël, vous voyez que Israël a toujours été tenté par l'infidélité. Lisez le livre des Juges, lisez les livres des Rois. Et Paul prend l'exemple d'Élie, l'époque d'Élie. Élie qui croyait être le seul. Et Dieu lui dit, non, tu n'es pas seul, il y a 7000 qui n'ont pas plié. Il y a un reste de 7000. Et Paul déclare, aujourd'hui aussi, il y a un reste selon l'élection de la grâce. Et ce reste, c'est le noyau de l'Église. Et c'est une des raisons pour lesquelles mon professeur du Nouveau Testament, quand je disais à Jérusalem, professeur Flusser, disait, le christianisme, c'est une religion juive. Parce que, à la base, il y a donc toujours un reste dans l'Église, qui est un reste d'Israël. Et aussi longtemps que l'Église subsistera, il y aura toujours un reste de Juifs en son sein. Plus ou moins important selon les temps, il fut un temps où la majorité de l'Église était composée de Juifs, pratiquement jusqu'à la destruction du Temple en 70. Et puis ensuite, ça a été l'inverse. Les Juifs ont été une grosse minorité, puis ensuite, à l'époque du Moyen-Âge, une petite, toute petite minorité, mais ils ont existé au sein de l'Église. Et Paul nous dit, en substance, s'il arrivait un jour, mais cela n'arrivera pas, mais s'il arrivait un jour qu'il n'y ait plus de Juifs dans l'Église, l'Église ne serait plus l'Église. Et ce qu'on appelle aujourd'hui, ce que l'on commence à considérer comme juifs, ce qu'on appelle les juifs messianiques, sont précisément ce reste, mais qui a existé en tout temps. Alors il est vrai qu'il y a eu des époques où on exigeait des juifs qui se tournaient vers Jésus qu'ils se détachent du judaïsme complètement. Et par exemple, à l'époque de l'Inquisition, en Espagne, quand un juif se convertissait au catholicisme, il devait signer un papier, j'oublie toujours de l'amener, mais c'est très intéressant, je l'ai chez moi, où il s'engageait à abandonner toutes les superstitions de la secte juive. Il changeait de nom, il prenait un nom chrétien, et donc, il s'engageait à ne plus respecter ni le Shabbat, ni les fêtes, ni la cacheroute, ni la circoncision, ni de fréquenter les Juifs, ni les synagogues, etc. Et il ajoutait, et s'il arrivait que je sois pris en train de pratiquer ces abominations-là, alors je reconnais que le châtiment qui m'atteindrait alors serait juste. Et le châtiment, c'était le bûcher, c'était l'Inquisition. Ça veut dire que le juif était considéré comme cessant d'être juif, ayant cessé d'être juif. Et cette idée, vous la retrouvez aujourd'hui dans beaucoup d'églises, y compris d'églises évangéliques. Je me souviens de certaines églises dans le sud de la France, où, à la suite de mon intervention, une famille est venue vers moi, me disant « Est-ce que vous pourriez dire que quand on est à Jésus et qu'on est juif, on reste juif. » Parce que chaque fois que je parle avec mes frères non-juifs, ils me disent « Maintenant que vous êtes chrétien, vous n'êtes plus juif. » Or, nous avons le sentiment que nous sommes juifs. Alors c'est très clair, Paul nous dit ça dans l'Épître aux Romains. Il nous dit le juif, ce n'est pas seulement celui qui a la circoncision de la chair, mais c'est aussi celui qui a la circoncision du cœur. La circoncision du cœur, c'est la foi en Jésus, ce qui veut dire que le juif qui croit en Jésus et qui a la circoncision de la chair, puisqu'il est juif, eh bien, s'il a la circoncision du cœur, non seulement il ne cesse pas d'être juif, mais il devient encore beaucoup plus juif qu'il n'était auparavant. Donc, voyez-vous ici l'erreur que l'Église chrétienne a faite pendant des siècles et des siècles, et qu'elle continue encore à faire aujourd'hui dans sa grande majorité, ne plus considérer les juifs qui ont cru en Jésus comme étant des juifs. Or, encore une fois, s'il n'y a plus de juifs dans l'Église, l'Église n'est plus l'Église. Et il est grand temps, justement, et c'est pourquoi le mouvement messianique arrive à propos, il est grand temps de reconnaître l'existence de juifs dans l'Église, et encore une fois, les juifs dans l'Église, les juifs croyants, les juifs chrétiens, les juifs messianiques, comme vous voudrez, employez le mot que vous voudrez à ce niveau-là, eh bien, sont essentiels pour l'existence de l'Église. Donc, rassemblement dans un seul corps du reste d'Israël qui a cru et du reste des païens qui a cru. Car finalement, les païens ne sont qu'une minorité par rapport à l'humanité. Les chrétiens, je veux dire, les chrétiens d'origine païenne ne sont qu'une minorité. Nous aussi, nous sommes un reste. Bien sûr, la différence, c'est qu'il y a, je crois, 6 à 7 milliards de non-juifs aujourd'hui dans le monde, et il y a 18 millions de juifs. Alors évidemment, la proportion, elle n'est pas la même dans l'Église. Il est bien normal, si vous voulez, que 90%, au moins 95% des membres de l'Église soient des non-juifs. Mais ça ne veut pas dire pour autant que l'élément juif ne doit pas être pris en compte. Et voyez-vous, c'est très important, parce que quand Paul écrit aux Romains, cette épître qu'il nous faudrait du temps pour étudier, et qui serait très intéressante, et qui, comme le disait le professeur Flousset, n'a pas encore livré tous ses secrets, les Romains, finalement, considéraient que, ma foi, la présence des Juifs n'était pas quelque chose d'important. Et finalement, Paul prend le soin, dans l'Épître aux Romains, d'écrire 3 longs chapitres sur le mystère d'Israël. Pourquoi ça? Parce que finalement, Paul est conscient que dans quelques années, dans 2-3 générations, eh bien, les païens seront majoritaires dans l'Église. Et par conséquent, ils prendront le pouvoir. Et par conséquent, l'Église va se paganiser. Et Paul fait un plaidoyer pathétique en faveur de ses frères juifs dans l'Église. Et en substance, il dit aux Romains ceci. Quand vous, les païens, vous serez devenus majoritaires dans l'Église, faites une place à vos frères juifs. Ne les écrasez pas par votre nombre, ne les écrasez pas par votre autorité, mais faites-leur une place, la place qui est la leur, la place qui leur revient. Et ça, c'est quelque chose de très important. Donc ici, ce rassemblement dans un seul corps des juifs et des païens. Du reste des juifs qui a cru et du reste des païens qui a cru. Maintenant, il y a une autre question qui se pose. Quelle est la place respective des uns et des autres? Et à l'époque de Paul, comme à notre époque, il y a cette idée erronée que les païens, plutôt les juifs, sont supérieurs aux païens. Ils ont la Torah, ils sont le peuple de l'Alliance, etc. Et par conséquent, il y a une supériorité des juifs sur les païens. Et ça, par exemple, c'était le problème des Galates. Les Galates étaient amenés à considérer que les juifs chrétiens étaient des chrétiens d'une essence supérieure, supérieure à eux, parce que justement, ils respectaient la Torah, ils avaient la circoncision, ils avaient tout ça. Et par conséquent, ils s'étaient laissés entraîner à ce que le Nouveau Testament appelle « judaïser ». Ça veut dire qu'ils avaient pratiqué des coutumes juives. Ils avaient même souhaité devenir juifs en se faisant circoncire. Par la circoncision, jusqu'à nos jours, un païen devient juif à part entière, parce qu'ils pensaient que c'était un moyen d'être un chrétien d'une essence et d'une qualité supérieure. Et vous retrouvez aujourd'hui ce même problème. Parmi les amis d'Israël, les chrétiens qui sont amis d'Israël, et qui, consciemment ou non, sont amenés à considérer les juifs messianiques dont je parlais tout à l'heure, comme des chrétiens d'une essence supérieure. Et vous avez tout un mouvement aujourd'hui de gens qui, au sein des églises évangéliques, eh bien, cherchent à judaïser. Par exemple, les églises messianiques, parlons des églises messianiques, par exemple, les messianiques, ça veut dire tout simplement chrétien. Il y a très longtemps de ça, j'étais dans une réunion messianique, entre guillemets, et à la sortie de cette réunion, on suivait deux braves sœurs qui devisaient entre elles, et on a entendu l'une dire à sa copine « Ah, j'ai appris au moins quelque chose aujourd'hui, c'est que je ne suis plus chrétienne, je suis messianique. » Je me suis mis à rire en hébreu. Parce que chrétien et messianique, ça veut dire exactement la même chose. Ça veut dire chrétien, ça vient du grec, ça vient de Christos en grec, et messianique, ça vient de Mashiach, Messie en hébreu. Ça veut dire exactement la même chose. Un chrétien, c'est quelqu'un qui croit dans le Christos, et un messianique, c'est quelqu'un qui croit dans le Mashiach, mais c'est le même personnage. Pourquoi est-ce que les Juifs emploient l'expression messianique ? Parce que ça passe mieux, comme c'est tiré de l'hébreu, ça passe mieux auprès des Juifs non-croyants que le mot chrétien. Chrétien, c'est un petit peu un épouvantail, c'est un ennemi, c'est quelqu'un qui les a persécutés pendant des générations. Alors, et aujourd'hui, donc, une église messianique, c'est quoi ? C'est une église juive. Et essentiellement, moi qui étais, donc, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, qui militait dans la première église messianique qui a été créée après la guerre de 1948 en Israël, l'idée, c'était que c'était une église en Israël. Une église messianique, en principe, ça n'a pas de sens dans la diaspora. Parce qu'en diaspora, on est dans un contexte différent. Et aujourd'hui, vous avez des églises messianiques qui se créent dans la diaspora et qui sont composées d'une infime minorité de juifs. Et la majorité des gens de ces églises messianiques sont des non-juifs qui ont envie de judaïser et qui s'imaginent qu'en judaïsant, eh bien, ils auront un plus, ils auront un avantage. Et je me souviens de cette personne qui me disait « Oh, moi, depuis que je respecte le Shabbat, j'ai des bénédictions comme j'en ai jamais eu. » Je lui ai dit « Ma chère sœur, c'est pas moi qu'il faut dire ça. » Figurez-vous que moi, j'ai vécu en Israël pendant plusieurs années, et quand je suis en Israël encore aujourd'hui, je fais comme tout le monde. Je me repose le Shabbat. Parce que là-bas, le jour du repos, c'est le samedi. C'est pas le dimanche. Le dimanche, on travaille là-bas. Par conséquent, quand nous étions là-bas, nous avions nos réunions, le Shabbat, etc., parce que c'était le jour du repos pour tout le monde. Et chaque fois que je suis là-bas, ben c'est ce que je fais. Et vous savez, quand je respectais le Shabbat, j'avais pas plus de bénédictions que quand je respecte le dimanche. Alors, il faut être sérieux. Comme le dit l'apôtre Paul, c'est l'ombre des choses à venir. C'est pas parce qu'on va respecter le Shabbat qu'on va être plus béni que, bon, on peut, c'est pas défendu, le faire. Mais il faut savoir, il faut ramener les choses à leur juste valeur, à leur juste proportion. Bon, quand j'étais pasteur dans l'église de Denain, de Vannes, je veux dire, et que donc le jour du Kippour tombait en semaine, j'avais l'habitude d'aller à la synagogue de Nantes pour ce jour du Kippour. Non pas parce que j'avais besoin de me repentir pour mes propres péchés, mais pour manifester ma solidarité avec le peuple d'Israël. Bon, en général, maintenant, je suis toujours par Mons et par Vaud, donc je ne peux plus y aller aussi librement. Mais c'était, voyez-vous, c'était pour une autre motivation. J'avais, personnellement, j'avais rien de plus. Mais vraiment rien de plus. Mais c'était une manière de témoigner ma sympathie et ma, disons, mon amour pour mes frères juifs. C'était tout. Ça n'allait pas plus loin que ça. Et quand, par exemple, c'est pareil, quand il y a des cérémonies, comme mon fils est aujourd'hui là-bas en Israël, quand il y a des fêtes juives, où il y a un minyan suffisant pour faire un service à la synagogue pour les fêtes, il y va. Non pas parce qu'il entend judaïser, etc., mais simplement pour manifester sa sympathie, sa solidarité avec les frères juifs. Il y a différentes motivations à ce niveau-là. Et donc, le problème des églises messianiques, c'est ça. Et il y en a même qui recherchent des origines juives. Et qui quand ils ont trouvé, ils ont par exemple un nom qui a une consonance germanique. Klein, Blum, Müller, Meyer, etc. Alors ça, il n'en faut pas plus pour qu'ils se déclarent juifs. On est juifs. Mais il faut savoir que il y a un tas d'Allemands qui ne sont pas juifs du tout, qui s'appellent Klein, ça veut dire petit en allemand, Blum, ça veut dire fleur en allemand. C'est pas parce qu'on a ce nom-là. Bon, il y a des juifs qui ont ce nom-là, qui l'ont pris d'ailleurs. C'était pas leur nom d'origine. Mais quand le ghetto a été détruit, ils ont pris ce nom pour se germaniser. Donc automatiquement, ça veut rien dire. Et quand bien même ce serait vrai. Et quand bien même ces gens-là auraient des ancêtres juifs. D'abord, ça, c'est pas ça qui fait de des juifs. Et deuxièmement, eh bien justement, Paul nous montre. Et on l'a lu dans ce texte-là. Que le fait d'être juif n'apporte aucune supériorité sur le non-juif. Aucune. Et ça, c'est le mystère de l'Église aussi. C'est que non seulement il y a dans cette Église le reste d'Israël qui a cru et le reste des païens qui a cru, mais les deux sont sur un pied total d'égalité sans que les païens soient obligés en quoi que ce soit de passer par le judaïsme. On vient à Jésus directement tel que l'on est. Bien sûr. Ensuite, on ne peut pas rester étranger au peuple d'Israël. Et ça, Paul nous dit ça aussi dans l'Épître aux Éphésiens. Il nous dit, vous n'êtes plus des étrangers ni des gens du dehors, mais vous êtes concitoyens des saints, gens de la maison de Dieu. Ça veut dire que le peuple d'Israël n'est plus un peuple étranger. Paul dira aussi aux Romains, « Je parle comme à des gens qui connaissent la Torah. » Et Jacques nous dira ceci, « Il y a dans chaque ville des gens qui prêchent Moïse. Par conséquent, si les païens veulent être instruits dans ce domaine-là, qu'ils aillent dans les synagogues. Nous, les apôtres, on a autre chose à faire que de leur enseigner la Torah. Il y a des gens qui sont là pour ça. » Nous allons nous borner à leur enseigner l'Évangile. Mais l'Évangile est inséparable, indissociable de la Torah. Par conséquent, il est indispensable que les païens s'approchent aussi de la Torah d'Israël, mais sans pour autant tomber dans cet excès justement qui consiste, nous l'avons vu tout à l'heure, à judaïser. Il n'y a strictement aucune supériorité à être juif et aucune honte à ne pas l'être, aucun complexe d'infériorité à avoir vis-à-vis de ce que l'on appelle les juifs messianiques. Et par contre, il y a une priorité, ça c'est vrai. Et Paul nous dit, l'Évangile, il est d'abord pour le juif et ensuite pour le grec, c'est-à-dire pour le non-juif. Ça veut dire que l'Évangile est d'abord, effectivement, une réalité juive et doit être reconnue comme telle. Mais une priorité n'indique nullement une supériorité. Je me souviens, il y a quelques années de ça, je prêchais dans une église de la région parisienne. On m'avait demandé de parler du nom de Dieu. Entre parenthèses, la semaine dernière, j'étais aussi dans une autre église. Pour la première fois de ma vie, je suis sorti. Je ne pouvais plus rester dans cette église évangélique où ils ont chanté un chant où, pendant des minutes et des minutes et des minutes, ils invoquaient le nom de Dieu, en l'écorchant d'ailleurs, comme on le fait dans tous les milieux chrétiens. Et là, comme le dit le commandement, c'est prendre le nom de Dieu en vain. Et là, donc, moi, je n'ai pas pu supporter ça, j'ai dû sortir. Donc, on m'avait demandé de parler sur le nom de Dieu. Et j'ai dit donc ce que tous ceux qui connaissent un peu le problème disent, à savoir qu'aujourd'hui, plus personne ne sait comment on prononce le nom de Dieu. Et que toutes les hypothèses que l'on avance sont des hypothèses qui sont invérifiables parce qu'on a oublié la prononciation du nom de Dieu. En hébreu, il n'y a pas de voyelle, il n'y a que des consonnes, donc automatiquement, la prononciation, c'est une prononciation qui est une prononciation traditionnelle. Mais comme il est interdit dans le judaïsme de prononcer le nom de Dieu, plus personne aujourd'hui ne sait comment on prononce le nom de Dieu. Et quand je dis ça, bien sûr, je suis à peu près certain qu'à la fin de la réunion, je vais avoir quelqu'un qui va venir me dire « Moi, je sais comment on prononce le nom de Dieu ». Ça n'a pas raté. Donc un brave monsieur est venu vers moi à la fin et il m'a dit « Moi, je sais comment on prononce le nom de Dieu ». Très bien. Alors il m'a expliqué sa théorie, il m'a fait toute une démonstration. Je l'ai écouté. Puis je lui ai dit, comme disent les Normands, peut-être bien cru, peut-être bien que non. Ah, il n'était pas content. Et il m'a dit, oui, mais moi, je suis juif. Ça fait 50 ans que j'étudie ça. Et je lui ai dit, moi, ça, je ne suis pas juif. Ça fait 50 ans que j'étudie ça. Voyez-vous, il voulait me persuader que parce qu'il était juif, il en savait plus que moi. Et là, je ne me suis pas laissé faire. Je dis, ben, je ne suis pas juif, mais j'en sais autant que vous. Au moins autant que vous. Alors, je crois que là, il faut avoir cette lucidité de ne pas se laisser, justement, capter par, comment dirais-je, tout un courant actuellement qui voudrait amener les païens judaïsés à respecter le Shabbat, à respecter les fêtes, à ne plus manger de porc, ou des choses comme ça. Et là, Paul nous montre que ces choses-là ne sont absolument pas nécessaires, indispensables pour les païens. Ce qui ne veut pas dire qu'on n'a pas la liberté. Il y a liberté dans ce domaine-là. Encore une fois, moi, je me sens parfaitement libre d'aller de temps en temps dans la synagogue. J'y étais pas plus tard que dimanche dernier, tiens, pour quelque chose de spécial, justement, sur la guerre des six jours. Et je me souviens, au début, j'y allais un petit peu en rasant les murs, parce que je savais qu'il y avait des collègues qui n'appréciaient pas du tout ça. Et quand ça s'est su, quand on a su que j'allais à la synagogue, eh bien, ce pasteur des environs a envoyé une circulaire à tous les pasteurs de Bretagne en disant « Jean-Marc Taubois va à la synagogue ». Quelle abomination, quel crime, quel... Eh bien non, moi je me sens libre. J'y vais pas tous les samedis, j'y vais pas par obligation, j'y vais par liberté, quand j'estime devoir le faire. Et là, dimanche dernier, il y avait toute une conférence sur la guerre des six jours. C'était pour l'anniversaire de cet événement-là. Je m'y suis rendu en toute liberté. Mais puis voilà, c'est tout. Donc, si vous voulez, il y a cette liberté. Mais je n'obligerai personne à venir à la synagogue. Et je ne jugerai personne parce qu'il va à la synagogue. Et je ne jugerai personne non plus parce qu'il ne va pas à la synagogue. Je ne jugerai personne parce qu'ils ne respectent pas le Shabbat, et je ne jugerai personne parce qu'ils respectent le Shabbat. Je connais des braves chrétiens qui sont persuadés qu'ils doivent respecter le Shabbat. Eh bien, qu'ils le fassent. Ça ne me dérange pas. Mais à une seule condition, c'est qu'ils ne m'obligent pas à le faire et qu'ils ne me jugent pas si je ne le fais pas. Et ça, par conséquent, je ne me laisserai pas juger. Et Paul nous dit que ceux qui réagissent comme ça, ceux qui se croient contraints par les coutumes juives, sont en réalité des faibles. Il dit ça dans l'Épître aux Romains. Bon, il faut respecter les faibles, on les respecte. On ne va pas les choquer, on ne va pas les blesser. Mais encore une fois, il ne faut pas non plus qu'ils empiètent sur notre liberté. Nous avons cette liberté dans le Seigneur. Et on n'a pas à se laisser dicter des conduites sous prétexte que dans les 10 commandements, il est question du Shabbat. Et même, c'est très intéressant de savoir que les rabbins n'attendent absolument pas des non-juifs qui respectent le Shabbat. Il y a même un texte très fort qui dit « Goy Shomer Shabbat Chayav Mita », ce qui se traduit en français, un non-juif qui respecte le Shabbat mérite la mort. Ça va jusque-là. Eh oui. Donc, on n'est pas du tout contraint à cela. Maintenant, si on est là, par exemple, un jour de Shabbat et qu'on veut participer à une cérémonie de Shabbat, on est les bienvenus chez les juifs. Il n'y a pas de problème. Mais voyez-vous, tout est une question d'équilibre. Je crois que là, il faut mesure garder. Maintenant, je voudrais aussi évoquer un autre point qui est très important, toujours dans l'Épître aux Éphésiens, où, au chapitre 2, Paul nous dit ceci, souvenez-vous de ceci, autrefois, vous, païens dans la chair, traités d'incirconcis par ceux qui se disent circoncis, qui le sont dans la chair par la main des hommes, vous étiez dans ce temps-là sans Messie, alors on traduit par « privé du droit de citer en Israël ». Bon, ça c'est une traduction très approximative d'un mot grec, qui est le mot « politéia ». Et le problème, c'est que nous n'avons en français aucun mot qui soit équivalent de ce mot grec-là. Donc on est obligé de traduire par des approximations, notamment par cette expression que j'ai lue tout à l'heure, « droit de citer en Israël ». Alors, qu'est-ce que veut dire ce mot politéia ? Il y a une chose qu'il faut savoir, c'est que, encore une fois, il y a, si vous voulez, dans cette relation, dans ce mystère de l'Église ici que nous évoquons, il y a un autre texte qu'il faudrait prendre aussi et étudier longuement, c'est la parabole de l'Olivier qu'on trouve dans le chapitre 11 de l'Épître aux Romains, où Paul nous montre que le peuple d'Israël, et toute l'histoire du peuple d'Israël, ce sont les racines qui nous portent. Il dit, toi, tu es, toi le païen, tu es la branche d'un olivier sauvage qui a été greffé sur l'olivier de culture. Tous les botanistes vous diront qu'une greffe de ce type-là ne prend pas. Et que Paul, donc, ne connaissait pas la botanique, Paul la connaissait parfaitement bien, et il a fait exprès d'employer cette image-là pour montrer que cette greffe, c'est une greffe contre nature et que par conséquent, c'est une greffe fragile. Et donc, tu as été greffé, nous sommes greffés sur l'olivier d'Israël. Il y avait un pasteur qui me disait, il y a de nombreux années maintenant, l'Ancien Testament, c'est l'alliance avec les Juifs et le Nouveau Testament, c'est l'alliance avec les chrétiens, autrement dit, avec les païens. Je lui ai dit faux. Là, il est écrit dans Jérémie 31:31. Voici, je fais avec la maison d'Israël et avec la maison de Juda une alliance nouvelle. Donc, la nouvelle alliance, elle n'est pas conclue avec les païens, elle est conclue avec Israël. Dieu n'a conclu aucune alliance avec les non-juifs. Aucune, aucune. Et Paul rappelle ça dans l'Épître aux Romains, au chapitre 15. Quand il dit que Dieu avait fait des promesses à Israël, il n'en a fait aucune aux païens. Et qu'est-ce qui se passe quand un païen se tourne vers Jésus? Il est greffé sur l'olivier d'Israël. Ça veut dire qu'il entre dans l'alliance qui a été conclue avec Israël. Alors, quelle est la position relative du chrétien et du juif dans cette alliance? D'aucuns vous diront, nous devenons juifs. Et nous sommes les véritables juifs. Il y a tout un mouvement aujourd'hui le mouvement des Éphraïmites qui affirme ça. Et d'aucuns nous diront « Moi, je suis juif de cœur ». Faux, il n'y a pas de juif de cœur ou de juif de pas de cœur. On est juif, on ne l'est pas. Et là, il faudrait beaucoup de temps pour nous arrêter, par exemple, sur le Conseil de Jérusalem. On y reviendra peut-être demain après-midi, acte 15, où la décision des apôtres, c'est que les païens, les non-juifs, peuvent entrer dans l'Église en tant que tels, sans avoir à passer par le raccourci du judaïsme. On l'a vu. Et par conséquent, on devient ni juif de cœur, ni juif du tout. On reste des païens. On reste des non-juifs, des goïmes. Maintenant, quelle est la position, justement, si on est greffé sur l'olivier d'Israël? Et c'est là que Paul emploie ce mot clé que peu ont vu, qui est le mot politéia. Politéia, ceux qui savent l'anglais, savent que les anglo-saxons ont un mot qui correspond exactement à ce mot grec-là. C'est le mot « commonwealth ». Commonwealth, ça veut dire en hébreu, en anglais, richesse commune. Et c'est une exception politique. Le British Commonwealth, le Commonwealth britannique, c'est une association d'États qui ont des richesses en commun. Ça comprend le Canada, l'Australie, la Nouvelle-Zélande et des îles, des choses comme ça, plus petites. Et ça veut dire que ces États, comme le Canada ou l'Australie, sont des États qui sont indépendants par rapport à la Grande-Bretagne, qui est la nation mère. Et ça veut dire qu'ils ont leurs propres institutions, et pourtant ils ont des richesses communes. Ils ont la même langue, ils ont la même culture, ils ont le même régime politique, ils ont la même reine. Bref. Ça veut dire qu'ils ne sont pas les étrangers les uns vis-à-vis des autres. Un Australien se sentira parfaitement à l'aise en Grande-Bretagne, un Canadien parfaitement à l'aise en Australie. Ils auront des accents différents peut-être, et ils se reconnaîtront pour tels, mais ils savent bien qu'ils sont un. Et pourtant, un Australien n'est pas un Britannique. Un Canadien n'est pas un Britannique. Chacun reste ce qu'il est. Eh bien, notre position par rapport au peuple d'Israël est exactement celle-là. Nous ne sommes pas des étrangers par rapport au peuple d'Israël. Et son histoire est notre histoire, sa culture est notre culture, sa Bible est notre Bible, son peuple est notre peuple, comme le dira Ruth aussi quand elle entrera dans l'alliance avec ses pères sont nos pères parce que ce sont les racines qui nous portent. Paul nous dit ça. Dans l'Épître aux Corinthiens, nos pères ont été sous la nuée, etc. C'est-à-dire mes pères à moi qui suis juif, Paul, et vos pères à vous qui, Corinthiens, n'êtes pas juifs. Mais spirituellement, ils deviennent votre père. L'histoire d'Israël est votre histoire. Et par conséquent, il est important d'étudier, justement, de s'approcher du peuple d'Israël, non pas pour l'imiter, non pas pour devenir juif, non pas pour judaïser, mais pour savoir d'où nous venons, pour comprendre ce qu'est justement notre mystère. Et je termine justement par cette phrase du professeur Thompson que j'évoquais tout à l'heure. Ce n'est que lorsque l'Église se porte et s'intéresse au mystère d'Israël qu'elle comprend son propre mystère. Ce n'est que lorsque nous étudions nos racines que nous pouvons comprendre ce que nous sommes, d'où nous venons, où nous allons, et par conséquent, ce qu'est le plan de Dieu au travers de tout ce qu'il a réalisé et qu'il va réaliser encore dans l'avenir. Alors voilà, je m'arrête là. Sur ce point-là, il y aurait encore évidemment beaucoup de choses à dire, mais je pense qu'on a quand même pas mal débroussaillé le terrain et que peut-être ça vous aidera à y voir un tout petit peu plus clair. Voilà.
Il y a quand même un point qui avait été proposé, c'est la question de leadership au niveau du concile de Nicée.
Ça, on verra ça demain.
À demain. Non, parce qu'on a encore un peu le temps. Mais si c'est toute une heure, effectivement.
Ah bah oui, c'est toute une heure.
C'est toute une heure.
C'est-à-dire, finalement, si je comprends bien votre question, c'est d'où vient le divorce entre l'Église et la synagogue.
Voilà.
Ça vient à ça.
Oui, c'est ça.
Ah oui, bon, bah, ça demande à être... On ne peut pas traiter de ça en 5 minutes. Hein.
D'accord. Mais ce ne sera peut-être pas non plus un sujet pour le culte, si.
Ah, pas pour le culte, non. Ce sera pour l'après-midi.
Ah, d'accord. OK. Donc, demain matin, ce sera la restauration, c'est ça ?
Demain, ce sera la restauration, oui.
D'accord. OK. Oui, parce que c'est quand même plus technique.
Oui.
C'est plutôt pour l'après-midi.
Bien sûr.
OK. Bah, on va passer aux questions, alors. Est-ce qu'on a de l'avance ? Vous serez chez vous plus tôt. Alors, question par rapport à ce qui vient d'être dit. Hein. Je crois que c'est un thème important et peut-être nouveau, ou peut-être l'approche un peu nouvelle. Hein. C'est vrai qu'on connaît beaucoup, peut-être dans l'Église ici, on connaît le problème de chrétiens qui judaïsent. On a des exemples personnels de gens qui ont souffert de ça. Donc c'est pas forcément nouveau, mais il y a peut-être d'autres éléments là qui ont été évoqués qui méritent peut-être un approfondissement. Est-ce qu'il y a des questions de ce qui vient d'être apporté ? Pas tous en même temps.
Par rapport au Shabbat.
Oui.
On ne va pas judaïser en pratiquant le Shabbat, mais la séparation, je veux dire, en fait, le Shabbat a été sous le concile de la Laodicée interdit. Pratiqué par les chrétiens.
Oui. Il y a eu des interdictions, oui, de fait. Oui.
D'abord,
oui.
Le jour chômé, le dimanche, pour 323, et ensuite, à la Odyssée, ils ont interdit.
On aura l'occasion d'y revenir c'est demain, ça. Justement. Oui.
Donc, on le pratique encore aujourd'hui, mais bon, on ne va pas le refaire, puisque c'est comme ça depuis des siècles.
Non, oui. C'est impossible. Bon, disons les choses d'une manière claire. Il est évident que le transfert du Shabbat au dimanche a été une erreur. Ça, je ne pense pas que c'était dans le plan de Dieu. Encore que, si vous voulez, ce qui est... On vient de faire des études très intéressantes, une école scandinave notamment, qui a démontré que finalement, ce sont les juifs chrétiens qui ont été les premiers à respecter le dimanche. Ce qui est très, très paradoxal, parce que il y a une tradition dans le judaïsme qui dit que quand le Messie sera là, la semaine aura 8 jours. Et le jour du Messie sera le 8e jour de la semaine. Et les Scandinaves ont découvert que les premiers chrétiens juifs avaient pris l'habitude de respecter le Shabbat, le 7e jour, comme les juifs normaux, et ils ajoutaient le dimanche, qui pour eux n'était pas le premier jour de la semaine, mais le 8e de la semaine. Et ensuite, c'est passé aux non-juifs qui, eux, ont supprimé carrément le Shabbat. Donc, ça a été une erreur, ça, c'est sûr. Mais c'est fait. On ne va pas revenir en arrière. Et surtout que c'est second, c'est très secondaire. Or, justement, aujourd'hui, certains en font un véritable cheval de bataille. Et ça va créer des nouveaux clivages, ça va créer des nouvelles divisions parmi les chrétiens. Et déjà, certaines églises se sont divisées sur cette question du Shabbat.
Parce que comme le dimanche était le culte de Mitra, qui est observé, ça venait des Romains, Constantin.
Bon, chez les Romains, il n'y avait pas vraiment de jour attribué. Une des raisons de l'antisémitisme romain, c'était justement que les Juifs s'arrêtaient de travailler un jour sur 7. C'était donc un peuple de paresseux. Voilà ce qu'était leur conclusion.
Est-ce qu'ils s'arrêtaient
pas ? Non, ils travaillaient tout le temps. Enfin, ils travaillaient. Les esclaves travaillaient.
Est-ce que c'est à cause de ça que les adventistes font
le... Oui, les adventistes, c'est leur cheval de bataille, ça revenir au Shabbat. Au départ, chez eux, ils considéraient que respecter le dimanche, c'était la marque de la bête. Ça allait assez loin. Bon, ils ont un peu mis d'eau dans leur vin aujourd'hui, mais au départ, c'était ça. Oui.
Il y a les Israéliens, au départ, appréciaient l'attitude...
Un peu plus fort.
Ah. Les Israéliens appréciaient l'amitié des évangéliques.
Oui.
Et apparemment, comme les prophéties disent que Israël subira des tribulations, très grave.
Oui.
L'impression, c'est que les évangéliques s'attachent à eux, mais en quelque sorte, prédisent leur grosse tribulation.
Oui.
Et il y a de la déception. Mais la question qui m'est induite, c'est que, comment dire, ce sont les prophéties de l'Ancien Testament.
Oui, oui.
Les Juifs ne lisent-ils pas ces prophéties?
Si, justement, oui.
Et qu'est-ce qu'ils en pensent?
Oui, justement, c'est une très très bonne question. Et en effet, ça c'est une question qui me touche beaucoup. De fait, si vous voulez, les Israéliens se sont rendu compte, ils ont découvert que parmi leurs meilleurs amis, il y a les évangéliques. Et il y a eu deux temps dans la redécouverte des évangéliques. Un temps où on a redécouvert leur amitié, et un deuxième temps où effectivement, maintenant, on se pose des questions au sein de l'establishment juif israélien. Est-ce que finalement les chrétiens évangéliques sont vraiment nos amis ou pas, puisque finalement ils nous annoncent une nouvelle Shoah où deux tiers du peuple seront exterminés. Est-ce que finalement quand ils nous ramènent dans notre pays, c'est pas pour mieux nous voir exterminés? Je me souviens d'avoir eu une passe d'armes avec un brave chrétien évangélique, c'était à Marseille, à l'entente judéo-chrétienne, ou devant un parterre de juifs et de non-juifs. Donc, j'avais traité d'une question qui n'avait rien à voir avec ça, d'ailleurs, qui est responsable de la mort de Jésus. Et donc, il y avait un temps de questions à la fin, et un brave monsieur s'est levé et a dit « Je voudrais quand même que nos amis juifs sachent que ce qu'ils ont vécu à la Shoah sous Hitler, c'était un petit hors-d'œuvre à côté de ce qui les attend, puisque maintenant, deux tiers d'entre eux vont périr dans une nouvelle Shoah. » Alors moi, je me suis dressé comme un lion et j'ai dit à ce brave monsieur, est-ce que vous vous rendez compte du caractère monstrueux de ce que vous venez de dire? Vous venez de vous adresser ici à des descendants de la Shoah et leur dire que finalement, le pire est devant eux. Oui, mais c'est ce qui est écrit. Je dis, c'est ce que vous croyez qui est écrit. Mais il faut relire ce texte-là en hébreu. Et il ne faut pas oublier que la plupart des gens qui ont traduit nos Bibles étaient des grands antisémites. Et que par conséquent, ils ont traduit certains textes d'une manière absolument tendancieuse pour donner libre cours à leur antisémitisme atavique. Et c'est le cas notamment justement de ce texte-là, de ce texte de Zacharie. Et le texte de Zacharie dit ceci, « Bechol haaretz shlish » Yabed. Ça veut dire, alors on peut traduire de manière dans tout le pays, et c'est comme ça qu'on traduit dans la plupart des Bibles chrétiennes, tout le pays, ça veut donc dire tout le pays d'Israël, mais ça peut se traduire à Aretz, ça peut aussi signifier la terre, le monde. Et vous parlez justement des rabbins, les rabbins ont toujours compris ce texte de cette manière. Et ça, j'ai consulté là, un peu tous les rabbins à ce niveau-là. Un seul traduit par pays et tous les autres traduisent par la terre. Et quand on lit le livre de l'Apocalypse, on voit justement qu'on retrouve un petit peu cette chose-là. À ne pas prendre à la lettre, bien sûr. Ça ne veut pas dire deux tiers pile. Mais ça veut dire un grand nombre. Ça veut dire un grand nombre. Dans le livre de l'Apocalypse, on voit qu'à la suite des fléaux qui s'abattront sur la terre entière, une grande partie de l'humanité va périr. Mais ce n'est pas spécifique au peuple d'Israël. Et de fait, cette manière de comprendre et de répandre maintenant, les Juifs commencent à se rendre compte que ça fait partie de la doxa évangélique, cette idée-là, et ils prennent leur distance vis-à-vis des évangéliques, et c'est très dommage. Très, très dommage.
Puisqu'on est un peu dans la sémantique, est-ce que tu peux bien nous expliquer quand il faut utiliser les termes israélite, israélien, juif, voilà. Parce que souvent, on hésite à utiliser l'un l'autre, on ne sait pas trop.
Alors, c'est assez complexe. Parce que finalement, tous les juifs sont des israélites. Ça veut dire descendants du peuple d'Israël. mais tous les Israélites ne sont pas juifs. Ça veut dire que on sait qu'il y a eu, après la mort de Salomon, une division au sein des 12 tribus, que 10 tribus se sont séparées des 2 tribus du sud, et que par conséquent, il y a eu 2 royaumes qui sont nés à la suite de cela. Le nord a pris le nom de royaume d'Israël, et le sud a pris le nom de royaume de Juda. Par conséquent, à partir de cette époque-là, les Israélites étaient plus spécifiquement les gens qui étaient descendants du royaume du Nord. Et ceux qui étaient du royaume du Sud étaient les Judéens, c'est-à-dire les Yehoudim, ce qui se traduit en français par juif. Et le mot français est piégé à ce niveau-là, parce qu'on ne voit pas très bien la relation entre juif et Juda. Par exemple, dans d'autres langues, par exemple en allemand, Judé, donc Judé, Juda, c'est beaucoup plus parlant. Et en hébreu aussi, donc Yehudi, Yehuda, Yehudi. Donc descendants, habitants de Juda. Donc tous les juifs sont descendants de Juda, donc du royaume du sud, mais pas forcément du royaume du nord. Maintenant, à partir de la Révolution française, on a utilisé le mot israélite pour désigner les juifs. Et par exemple, Clermont-Tonnerre, quand il a promulgué la loi qui donnait aux juifs l'égalité des droits en France, avec les protestants d'ailleurs, c'était à peu près dans la même foulée, a dit ceci: il n'y a plus de juifs en France, il n'y a plus que des citoyens français de confession israélite. Et encore aujourd'hui, on vous parlera du culte israélite, du consistoire israélite, etc., qui est un terme qui a une connotation religieuse, ceux qui pratiquent la religion d'Israël. Mais évidemment, c'est un mot qui est piégé parce qu'on ne voit pas très bien la relation, on ne voit plus la relation maintenant avec le Royaume du Nord. Maintenant, on a redécouvert les 10 tribus du Nord, qui, elles, sont des Israélites, mais ne sont pas des Juifs. Alors, voyez-vous, ça devient compliqué. Et puis, on a ensuite les Juifs qui sont, eux, des descendants des tribus du Sud uniquement. Et maintenant, on a les Israéliens. Les Israéliens, ce sont les citoyens de l'État d'Israël. Alors, vous pouvez avoir... La plupart des citoyens de l'État d'Israël sont Juifs ou Israélites, si vous voulez employer ce terme, dans l'acception du terme religieux. Ils sont de confession de religion israélite, mais vous avez des Israéliens qui ne sont pas juifs. Vous avez des Arabes israéliens, vous avez des Druzes israéliens, vous avez des Circassiens israéliens qui ont la carte d'identité israélienne, mais qui ne sont pas juifs.
Les Israéliens eux-mêmes, ils s'appellent comment? Eux-mêmes, ils se disent Israéliens.
On dit Israéli.
Mais ceux qui sont religieux, ils disent on est juif.
Yehoudim.
Ils sont pas religieux.
On dit Yehoudim. On dit Yehoudim. Yehoudim.
Vous avez dit qu'on a redécouvert les 10 tribus.
Oui.
Elles sont où?
Elles sont dispersées depuis l'Iran jusqu'au Japon, c'est-à-dire dans toute l'Asie. Ils sont concentrés dans toute cette région-là, toute cette région de l'Extrême-Orient, quoi. Oui.
On n'avait pas trouvé une tribu en Afrique.
Si, la tribu de Dan, mais ça c'est un peu particulier. La tribu de Dan, elle a été la première qui s'est exilée, et qui a été exilée non pas par les Assyriens, mais par les Araméens, donc qui a été déportée en Afrique. Mais toutes les autres tribus, les 9 autres tribus, ils sont à chercher dans tout ce secteur-là. Oui.
Je voudrais juste revenir sur quand tu as parlé du mystère d'Israël et des Juifs, enfin du mystère d'Israël et de l'Église, tu as insisté sur le mot reste.
Oui.
Il y avait un reste,
oui,
qui est devenu chrétien.
Oui.
Mais est-ce qu'on ne retrouve pas ça la même chose chez les chrétiens où il y a un reste? Parce que tous les chrétiens qui disent qu'ils sont à Jésus, beaucoup, c'est des multitudes.
Bien sûr. Bien
donc,
sûr.
Donc, en fait, l'idée du reste se traduit aussi aujourd'hui par un reste. C'est pas la plupart des gens qui se disent chrétiens qui sont chrétiens.
Évidemment. Évidemment.
Donc, c'est aussi fait partie du mystère.
Moi, votre anecdote sur le chant m'intrigue.
Sur le champ, vous avez dit où vous avez quitté du coup le
monde
de gens. Est-ce que j'aimerais juste en savoir plus, savoir si nous-mêmes on fait peut-être une erreur. Est-ce que c'était juste la façon dont c'est fait ou est-ce que j'imagine que vous faites allusion à un chant qu'il y avait.
Oui, c'est ça, oui.
Et est-ce que ça veut dire qu'il ne faudrait pas chanter ou est-ce que c'était l'esprit dans lequel. Enfin, est-ce que vous pouvez juste en dire plus.
C'est-à-dire le répéter, c'est prendre le nom de Dieu enfin.
D'accord, donc ce serait la même chose si on disait Jésus ou.
Absolument.
C'est juste,
mais plus encore le nom de Dieu, parce que le nom de Dieu, Jésus, c'est pas pareil. Okay. De toute façon, Jésus lui-même nous interdit de faire ça. Il dit, ne vous imaginez pas qu'à force de parole, vous serez exaucés. Donc, invoquer le nom de Dieu à répétition, comme les moulins à prière tibétains, c'est se mettre aussi en porte-à-faux vis-à-vis des paroles de Jésus. Quoi.
C'est plus le problème de la répétition exagérée, on va dire,
Ah oui.
J'avais chanté au moins 25 fois. Au moins. Parce que du coup, nous, on n'en sera pas chanté demain.
Non, mais nous, on a entendu des chants pendant une heure, il a chanté. Là, peut-être, voilà, le même chant. Quoi. Voilà. Et que des onomatopées, c'est pas des chants articulés. Voilà. Donc ça fait, bon, c'est un peu la mode en ce moment.
Ben oui, mais c'est peut-être pas, c'est pas très biblique.
Non, mais on se pose pas trop la question, c'est biblique, c'est est-ce que ça amène du monde ou pas.
Ah, voilà, c'est ça.
C'est ça la question. Est-ce que ça remplit les églises ou quoi. C'est pour ça que je parlais du reste aussi.
Allons. Eh oui.
Mais bon, on va pas rentrer là-dedans. Non. Est-ce qu'il y a d'autres.
Moi, ce qui m'interpelle, c'est en fait le dôme qui a été offert. Comme vous l'avez dit,
je n'entends pas parler plus
fort. Plus fort.
Ce qui m'interpelle, c'est le dôme qui a été offert, en fait.
Le dôme de.
Le dôme sur le mont.
De Jérusalem.
Voilà.
Le dôme de la roche, oui.
Dôme du rocher.
Parce qu'en fait, c'est juste en dessous qu'il y a le sanctuaire, qu'il y a l'arche.
Non,
il n'y a plus l'arche.
En dessous, il y a.
Il y a une pierre.
Il y a le mur de prière.
Le mur de la montagne.
C'est pas un mur.
Vous parlez du mur de lamentation.
Attends,
mais moi, je parlais du dôme où il y a la mosquée.
Il ne faut pas confondre les choses. Le mur de lamentation, c'est un mur de soubassement de la terrasse du temple. C'est le mur occidental. Mais sous la coupole, il y a la pierre qu'on appelle la pierre fondamentale. Even Hachetia, on dit en hébreu.
Tout à fait.
Oui.
Alors, je comprends pas que ça a été offert, justement.
Ça a été offert.
Moshe Dayan.
Oui, Moshe Dayan.
Ah,
alors qu'il avait gagné la guerre.
Alors, si vous voulez, ce dôme, il est construit sur une esplanade, une énorme esplanade qui a été arasée par Hérode le Grand quand il a reconstruit le temple. Et, si vous voulez, le mur de soutènement ouest de cette terrasse est le lieu saint des Juifs.
D'accord.
Ça, Moshe Dayan ne l'a pas rendu.
D'accord.
Ça, c'est resté. Pourquoi ce mur-là? Parce que c'était le mur qui était le plus proche du lieu très saint.
D'accord.
Mais disons, la pierre, la pierre fondamentale, logiquement, c'était à cet endroit-là que se dressait le lieu très saint. Et donc, quand le temple a été détruit, les Romains l'ont souillé volontairement, donc l'abomination de la désolation. D'ailleurs, en hébreu, chikoutz, ça veut dire la souillure, la crotte. Et donc, il est resté un dépôt d'immondices jusqu'à la conquête arabe, en 638. Et en 638, quand le calife Omar est arrivé à Jérusalem, il a fait déblayer les immondices qu'il y avait là, et il a sanctifié cette pierre, qui, d'après aussi la tradition arabe, était l'endroit où Mahomet est monté au ciel, et il a fait construire dessus cette coupole qu'on appelle le dôme du rocher. Et ça, c'est considéré comme le troisième lieu saint de l'islam.
D'accord.
Donc, en 1967, donc, les parachutistes ont pris l'ensemble de l'esplanade, mais en principe, cette esplanade, elle est considérée par les musulmans comme un de leurs lieux saints. Et finalement, dans un esprit de conciliation, parce qu'il n'était pas religieux, et pour essayer de se concilier les Arabes, ça c'était le but de Moshe Dayan, il leur a rendu cette esplanade en disant, finalement, ce qui aurait dû être un lieu saint juif est resté un lieu saint arabe jusqu'à nos jours. À tel point que même les juifs n'ont pas le droit d'aller prier là-dessus.
J'ai vu un article là-dessus.
Et vous ne trouvez pas que la mosquée elle-même, c'est une abomination ?
Bien sûr. Mais bien sûr.
Et en fait, elle sera détruite lors du
siècle. Absolument, absolument.
Est-ce que ça répond à ta question ? Ou tu en as une autre derrière ? Totalement. Non, parce que tu voulais savoir pourquoi il avait donné, c'est ça ?
Ben oui, mais voilà, je ne comprenais pas. C'est assez confus, quoi.
Oui.
Je
comprenais
pas. Mais je pense qu'il avait la pression internationale, quand même, de l'ONU. Moshe Dayan.
À cette époque-là, l'ONU était complètement muette. Puisque
les médias...
Tout le monde était surpris. Et les Arabes ont été les premiers surpris qu'on leur rende cet endroit. Quoi. Ils s'attendaient à ce que les Juifs le conservent.
Ils savaient très bien ce qu'ils faisaient pour la guerre. Et puis là, ils donnent un propos. Dieu, il avait son...
C'était pas le temps de Dieu.
Il a fait le plan de Dieu. Est-ce qu'il y a d'autres questions pendant que vous y êtes ? Parce qu'il faut profiter pendant que c'est chaud. Après, ça refroidit. Non, c'est bien, allez-y. Il y a d'autres questions que vous posez ? Parce que c'est vrai qu'on ouvre là tout un pan de compréhension. Non, mais de compréhension aussi. Parce que cette histoire où finalement on croit que le christianisme, c'est pour les chrétiens et les païens, c'est quand même très fort, quoi. Et que même aujourd'hui, c'est vrai que les juifs messianiques, ils sont un petit peu à part. Bon, parce que voilà, la proximité est difficile, quoi.
La proximité est difficile, oui, parce que aussi se méfie des non-juifs.
Voilà.
C'est, il y a une méfiance réciproque. Comme d'ailleurs, il y avait à l'époque biblique, hein, on verra ça demain. Et c'est la raison pour laquelle Paul écrit l'Épître aux Romains, justement, pour donner une base de coexistence entre les deux tendances de l'Église.
Est-ce que c'est oui, parce que par exemple, chez les juifs messianiques, je ne sais pas s'ils ont encore la kippa.
Donc, certains, pas tous.
Donc s'ils portent la kippa et qu'ils viennent d'une église évangélique, bon bah tout de suite c'est stigmatisé parce que.
Bien sûr.
Donc il y a un problème aussi de look extérieur, quoi. De
tout présentation
extérieure. Il y a une chose que j'ai remarqué, à moins que je me trompe, hein, dans le Nouveau Testament, nulle part il est écrit aux juifs. Donc aux Israélites, de cesser la circoncision.
Bien sûr.
Nulle part.
Oui, bien sûr. Mais les juifs messianiques continuent à se circoncire. C'est normal.
Non, je ne dis pas le contraire.
Oui.
Mais justement, je dis ça pour contredire certains chrétiens qui disent « Ah ben attends, ils sont convertis au Christ,
voilà, c'est voilà. Or, pas du très clair, dans 1 Corinthiens 7, vous avez ça. « As-tu été appelé circoncis, ne fais pas disparaître ta circoncision. » As-tu été appelé incirconcis, ne te fais pas circoncis. Voilà ce que j'ordonne partout où je passe. Donc il est normal que nos frères juifs qui croient en Jésus soient circoncis. C'est normal.
Donc ça veut dire qu'ils gardent la tradition, quoi.
Ouais.
Un peu de la loi.
Ouais.
L'ombre des choses à venir.
Donc, ils ont la liberté de
l'enseigner. Le Shabbat, c'est normal
qu'ils... D'une certaine manière, on ne peut pas leur reprocher de respecter le Shabbat.
Le Seigneur leur demande aussi de respecter.
Non,
mais... pas absolument, si vous voulez, pas absolument. Dans ce sens.
La loi doit être. Elle est éternelle.
Oui, mais alors, si vous voulez. Attention, c'est très important. C'est très important ce que vous dites là. C'est très important, il faut bien comprendre. Il y a. Par exemple, si on avait eu le temps de nous arrêter plus longtemps sur l'Épître aux Éphésiens au chapitre 2, Paul nous dit ceci : il a détruit le mur de séparation, l'inimitié qui séparait les uns les autres. Et il y a dans la Torah des règles, des lois qui ont pour but de séparer d'une manière claire juifs et non-juifs. En particulier les lois alimentaires. Parce qu'à partir du moment où un juif ne peut pas, par exemple, manger de la viande d'un non-juif, boire du vin d'un non-juif, parce qu'il n'est pas cachère, ça veut dire que la communion est impossible. La communion de table est impossible. Et c'est le but. Le but, c'était justement de faire en sorte que le peuple d'Israël soit un peuple à part, qui n'ait pas de contact avec les païens pour qu'il ne soit pas contaminé par l'idolâtrie des païens. Mais maintenant, Jésus, on est dans un contexte totalement différent. Un contexte où nous avons vu l'alliance, la nouvelle alliance qui est conclue avec Israël, est ouverte aux païens. Donc il faut que les païens aient la possibilité d'entrer dans la communauté d'Israël. Dans la politéia d'Israël, on l'a vu tout à l'heure. Donc automatiquement, ces lois qui empêchaient justement la communion entre les uns et les autres, ou il faut les supprimer, mais ça on ne le fait pas, en tout cas il faut les relativiser. Donc c'est tout le problème de l'incident d'Antioche dont il est question dans l'Épître aux Galates, où Pierre mangeait avec les païens jusqu'au moment où sont arrivés des judaïsants. Et là, il s'est séparé d'eux. Et il s'est fait remonter les bretelles magistralement par Paul, qui lui a dit « Attention, là, tu es en train de rompre la communion avec les païens. C'est quelque chose qui est très grave. Tu es en train... Tu t'inscris exactement dans ce qui... Tu détruis l'Église, en quelque sorte. Tu détruis même la notion même d'Église, qui est cette communion des uns et des autres. » Et Paul nous donne des règles à la fin de l'Épître aux Romains, du vivre ensemble, justement. On parle beaucoup du vivre ensemble aujourd'hui. Eh bien, justement, c'est ça. Comment est-ce que les uns et les autres peuvent vivre ensemble? Comment, par exemple, des gens qui mangent cachère, etc., peuvent-ils avoir une communion avec des gens qui ne le font pas? Et vice-versa. Donc, c'est pas des problèmes simples. C'était pas des problèmes simples dans l'Église ancienne. Et finalement, on se retrouve plus ou moins aujourd'hui avec l'apparition du mouvement messianique, on se retrouve plus ou moins devant ce genre de problème aussi.
Parce que j'avais rencontré une famille qui me disait que s'ils ne font pas le Shabbat et tout cela, ben ils pêchent.
Ben oui.
Ils me disaient que moi aussi,
voilà.
Moi aussi, j'étais supposé, parce que si je ne le fais pas,
voilà, ben voilà, voilà. Serais, alors c'est ça qui est inacceptable. Que eux, s'ils veulent respecter le Shabbat, ils le fassent, c'est leur liberté. Mais ils n'ont pas le droit de l'imposer aux autres. Et ils n'ont pas le droit de juger ceux qui font autrement.
Mais c'est leur liberté parce que le Seigneur leur accorde.
Voilà, le Seigneur leur accorde.
Alors que le Seigneur ne me demande pas de faire...
Absolument.
J'ai essayé de faire une comparaison, je ne sais pas s'il est heureux ou pas, mais les chrétiens américains, quand ils viennent, ils considèrent qu'ils pêchent s'ils boivent du vin.
Voilà.
Et les Français, s'ils vont là-bas, ils boivent du vin, s'ils ne pêchent pas. C'est du même ordre. Je veux dire, ça n'a rien à voir avec le spirituel.
Absolument.
C'est juste des... Voilà, c'est... Aujourd'hui, la circoncision n'a rien de spirituel. C'est juste une habitude parce qu'ils appartiennent...
C'est national.
C'est national, voilà. Voilà. C'est juif. Comme les Américains, ils ne boivent pas d'alcool, bon, pour des raisons historiques qu'on connaît. Voilà, c'est tout. C'est tout. Mais le vivre ensemble est difficile, parce que si à table, vous mettez du vin... Vous pouvez les choquer, surtout s'ils ont des enfants. Donc, vous ne le faites pas. Voyez, c'est, à mon avis, je crois qu'on fait une grosse histoire pour les Juifs, alors que c'est du même ordre que la culture. C'est une culture.
Oui, c'est culture. Oui.
C'est culturel.
Ah, oui.
C'est culturel.
Ah, tout à fait.
Alors qu'on en fait tout un débat, du péché, du machin et tout, mais Dieu n'a rien à faire de tout ça. C'était des ombres, des choses à venir. Donc, il faut complètement oublier ça. Essayer de vivre ensemble, mais les gens, comme les Galates, ils s'accrochent comme des morpions à des trucs. Ah, on pêche pas. Attends, faut arrêter. Je crois que c'est cette stigmatisation du péché qui est très catholique. Hein. On pêche pas. Donc c'est vraiment ancré dans le catholicisme, ça. Alors on pêche, alors on a tant de jours de purgatoire, et voilà, c'est tout dans l'idée catholique. Je pense qu'on est très marqué par ça.
Mais il y a un problème.
Pardon ?
Paul était un précurseur, parce que quand il disait « je me suis fait juif avec les juifs et grec avec les juifs », c'est que quelque part, il respectait quand même voilà, les juifs.
Bien sûr, mais bien sûr. Et il nous dit ça, il dit si toi qui es parmi les forts, ce qu'il appelle les forts, tu es invité par un faible qui te dit « cette viande a été sacrifiée aux idoles », n'en mange pas, non pas à cause de toi, mais à cause de celui qui a dit que de ne pas en manger, parce que lui, automatiquement, pour lui, c'est un péché. Donc tu vas le choquer si tu manges de cette viande-là.
Mais ça, c'est très intéressant, parce qu'en fait, il pêche, non pas pour ce qu'il fait, non pas parce qu'il mange cachère ou pas cachère, mais pour sa conscience. Parce que c'est sa conscience qui
fait conscience, péché. Oui.
Donc c'est la conscience, c'est-à-dire le sentiment de péché ou pas. Et je crois que c'est cette histoire de conscience, on n'a pas assez conscience, c'est la conscience qui est jugée. Et des faibles, effectivement, qui disent « Ah, je fais ça, sinon j'ai péché pour le Seigneur bon, », il faut le respecter, mais il ne faut surtout pas lui donner raison par raison. Je veux dire, on le laisse, voilà, tant qu'il n'aura pas compris. C'est comme l'histoire du voile chez les femmes.
C'est un peu différent.
Oui, mais bon, quand même.
C'est un peu...
Oui, non, mais bon, quelque part, nous, quand il y a des gitanes qui viennent, et qui voit qu'il y a une personne qui est une femme, il sort tout de suite. Hein. Il reste même pas, il respecte même pas le fait qu'on soit chrétien. Vous voyez. Donc je veux dire, c'est des comportements liés à ce qu'on fait extérieurement, ce qui est extérieur, une présentation. Bon, il faut l'accepter. Je veux dire, chacun ses convictions. Mais ce qui est le plus important, c'est Christ qu'on partage spirituellement. Quoi. C'est important. Mais l'homme s'attache toujours au...
à l'extérieur.
À l'extérieur.
Enfin, surtout s'il a été enseigné comme ça.
Bah oui.
C'est difficile de l'enlever.
Ouais.
Et il y a un petit problème avec le vin.
Avec le
vin.
Oui. Attendez, on va laisser partir des gens. Voilà, donc on peut avoir d'autres interactions. À demain.
C'est que le vin était obligatoire lors des libations et que le miel était interdit. Or, que le miel, c'est pas le miel d'abeille. C'est un jus de fruit concentré, c'est tout.
Ouais, le miel, c'était du miel de date, essentiellement.
C'est du miel de date ou même miel de raisin, parce que j'en ai lu les compositions. Donc, le jus de fruit concentré était interdit aux libations. Seul le vin était utilisé. Or, quand on songe quand même que la pasteurisation est très récente, puisque dans l'Antiquité, ils conservaient le vin dans des jarres, et le vin fermenté, le jus de raisin fermenté, d'office, c'est obligatoire, c'est des lois de la nature, hein, de la création. Donc, quand on enseigne que c'était du jus de raisin, ben c'est faux.
Sure.
Ce n'est pas conforme à aux époques
anciennes. Mais en même temps, ce n'est pas pour autant qu'ils pêchent. Si c'est...
Non. Voilà. Je crois que là, il faut dépasser ces querelles-là.
Voilà.
Parce que jus de raisin, pas jus de raisin. Et puis alors, petite coupe, grande coupe, etc. Je me souviens, en Suisse, là, j'ai eu une passe d'armes avec un cher frère à ce niveau-là, qui me disait, je ne prendrai jamais la Sainte-Seine avec des gens qui la prennent dans des petites coupes. Je lui dis, alors là, vous êtes à côté, vous ne vous reconnaissez pas comme des frères, vous ne reconnaissez pas comme l'Église, donc automatiquement, c'est grave. Et de toute manière, dans une église de 300 personnes, il n'y a pas une seule coupe pour tout le monde, il y en a plusieurs, donc automatiquement, qu'on en prenne 5 ou qu'on en prenne 100, ça ne change rien. Mais il y a des théologies de la coupe comme ça, vous rendez compte, il arrive à ce brave frère, il en arrive à ne pas vouloir prendre la Sainte-Seine avec ses frères parce qu'il les prend dans des petites coupes. C'est aberrant, quoi.
Ah oui, c'est la limite humaine. Très bien, merci beaucoup, pasteur, pour cette conférence.